Bouches-du-Rhône. Voilà, donc pas mal de restrictions de circulation, essentiellement pour les poids lourds, mais ça ne doit pas faire oublier aux conducteurs de voitures l'alerte orange et au verglas, donc jusqu'à demain. Restez donc prudents sur les routes.
Merci Jemina Zegodi, que l'on retrouvera évidemment dans le courant de l'après-midi.
RAI GR1. Quelle heure est-il à Caracas,
Jérôme Borisevski, Phnom Penh,
à Kaboul,
Moscou, Ilana Moriusev,
à Kinshasa,
Istanbul, Jérôme Bastou,
à Washington, Fabienne Santès, France Inter.
Avec tous nos correspondants à l'étranger, 45 minutes de reportage et de direct quotidien à tous les coins de la planète.
Du lundi au vendredi à 18h15, Et pourtant elle tourne, saison 4, Jean-Marc Four, France Inter.
La différence.
Il est 15h04 et c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Salut les lovers et les loveuses de là-bas si j'y suis. C'est pour vous rappeler que ce week-end, c'est la Saint-Valentin.
Nous, on est les couples mixtes, les amoureux au bon public. Ceux qu'on veut repeindre en gris, ceux qui en voient de toutes les couleurs.
Alors, pour pas se laisser abattre, pour continuer à se battre, eh ben, on vous invite au bal.
À Paris, demain, vendredi 12 février, à l'hôtel de ville, oui. De 18h30 à 21h30. Entrée gratuite sur inscription à baldesamoureux@gmail.com.
Et puis aussi, ça continue samedi 13, à Montpellier d'abord, dès 19h, salle Jacques Ier d'Aragon, entrée gratuite. Et puis en parallèle à Marseille, samedi 13 toujours, dès 15h dans la rue, et puis le soir dans les locaux de la CIMAD au 8 bis rue Catala.
Alors, venez nombreux, venez soutenir la liberté d'aimer des couples franco-étrangers.
Et puis... même vous, monsieur le ministre, là...
Besson.
Oui, ce serait marrant de vous y voir au bal des amoureux, malgré tout. Vous qui aimez les belles étrangères. On vous attend. À ce week-end.
Bonjour tout le monde, salut Daniel. Ouais, c'est Nicolas Dutry, là. Je suis à la télé, j'écoute France Inter, là, toute la journée, comme d'hab. Et puis, aujourd'hui, donc, c'est une journée spéciale Elisabeth Bain-d'Inter. Alors, c'est fabuleux, ça. J'espère qu'un jour on aura la chance d'avoir une journée spéciale Bernard-Henri Lévy, et puis une journée pourquoi pas spéciale Alain Minc, et puis une journée spéciale Fickelkraut, Taguieff et compagnie, quoi. Ça serait vraiment sympa, quoi. France Inter, super. Et en l'honneur de quoi, d'ailleurs, c'est une journée Elisabeth Bain-d'Inter? J'ai toujours pas compris. En l'honneur de Publicis, côté en bourse, hein, qui avait fait la campagne électorale de Sharon en Israël, ou en l'honneur de quel autre lobby Elisabeth Bain-d'Inter s'exprime-t-elle, hein? Bon, voilà, je me pose cette question. C'est super, France Inter. Merci, Daniel. J'espère que tu en parleras de tout ça. Ça m'intéresse bien de connaître ton point de vue. Hein. Ciao. Bon courage à tout le monde.
Oui, bonjour. J'appelle de Béthune dans le Pas-de-Calais. Je m'appelle Arlette de Gaugue. Alors, je suis complètement sidérée d'entendre qu'une journée entière est consacrée à Madame Bain-d'Inter, grande bourgeoise qui a dû vraisemblablement avoir des employés de maison pour éduquer, élever ses enfants, n'est-ce pas, et qui vient nous parler de la liberté de choix des femmes et des couples. Dites-moi, où est la liberté lorsqu'on passe à minima 50 heures hors de son logis, qu'on soit homme ou femme, et quel temps reste-t-il pour être près de nos chers petits? Merci, au revoir.
Ah, c'était beau ce que disait Madame Elisabeth Bain-d'Inter ce matin sur France Inter. Et une fois de plus, on a une grande dame, là, qui vient de sortir un livre. Cette dame qui vit depuis 40 ans dans son magnifique appartement du 6e arrondissement, avec vue sur le jardin du Luxembourg, et qui se permet de donner des leçons aux femmes, voilà, aux femmes qui travaillent, aux femmes qui ont des enfants. Parce qu'est-ce qu'elle en connaît de tout ça? Qu'est-ce qu'elle en sait? Hein, franchement.
Salut, Daniel de Briançon. Alors voilà, c'est le matin, j'écoute France Inter, Elisabeth Bain-d'Inter est invitée. Alors cette dame hautaine, enfin du haut de son statut de bobo, nous a quand même ressorti que, attention, ouvrez les guillemets, il faut encourager les pères à prendre plus de place dans l'élevage des enfants. L'élevage, hein, elle l'a dit. Elle parle pas d'éducation ou de quoi, l'élevage. Voilà, c'est balèze, elle est forte, elle me plaît, quoi. Je sais pas ce qu'elle a contre l'allaitement, par exemple. Enfin, je suis en école d'infirmier en dernière année. J'ai fait un stage à la maternité et tout du long du stage, on se posait la question de... Comment encourager l'allaitement sans surtout culpabiliser les femmes qui ne souhaitent pas allaiter? Voilà, et si on écoute cette charmante dame, il y a des pressions, on leur fait miroiter des maladies infâmes pour leurs enfants. Enfin bref, j'avais pas un a priori favorable sur elle, bah ça s'est pas amélioré, surtout avec son élevage des enfants. Voilà. Et bien, bonne journée à tout le monde. C'était Daniel.
Quand je pense que la plupart des gens s'insurgent contre le fait qu'une candidate du NPA, Ilyam Moussaïd, porte le voile. Ça, c'est ce qui s'appelle vraiment se tromper le combat. Je viens d'entendre Elisabeth Badinter, invitée d'Isabelle Giordano à service public. Affligeant. Au nom du féminisme, elle nous a fait tout simplement l'apologie du capitalisme. La représentation adéquate de la femme dans une France moderne, c'est la femme qui travaille dans l'entreprise, libérée de l'allaitement et du ménage. La décroissance, le mot n'a même pas été cité, malgré l'intervention d'Hervé Kempf au téléphone, c'est le retour du puritanisme et du conservatisme qui nous font revenir plusieurs années en arrière. C'est extraordinaire de constater comment le capitalisme s'est approprié les termes de la pensée de gauche anticapitaliste d'il y a 30 ou 40 ans pour reconquérir son territoire un moment menacé. Dans la bouche des capitalistes de notre époque, le progrès, c'est Sarkozy, nommément cité par la rédactrice en chef du magazine ultra-gauchiste, Elle, qui nous a appris que notre progressiste président de la République avait proposé d'instaurer un droit opposable à la garde d'enfants. Ce qui était drôle d'ailleurs, c'était de sentir le malaise d'Isabelle Giordano, qui n'est pas tout à fait une imbécile, et qui voyait venir les protestations qu'allaient entraîner les propos de ses deux invités. Valérie Thorognan a d'ailleurs essayé de rattraper le coup à la fin de l'émission en disant que ce serait une impasse d'opposer les écolos et les féministes. Non, ne partez pas les écolos, continuez à HTL. D'ailleurs, on a prévu une série de photos de lingerie coquine avec Laetitia Casta dans la paille d'une ferme écolo. Donc, le féminisme d'Elisabeth Badinter et du journal Elle, c'est l'image de la femme moderne dans l'entreprise, et tous ceux qui s'y opposent sont des puritains qui utilisent la culpabilité pour nous faire régresser vers le conservatisme. Pas un mot sur le fait que faire l'apologie de l'entreprise, c'est faire du même coup l'apologie du rapport de suggestion entre des individus qui dirigent et qui récoltent la plus grande part des bénéfices, et des individus qui exécutent et sont exploités par les premiers.
Daniel, les 30 millions d'Américains qui vont bénéficier de la couverture sociale fournie par le président Obama, je ne pense pas qu'il parle d'Obamania. Le budget récupéré par les États-Unis avec l'interdiction d'Obama d'aller sur la Lune, parce qu'ils trouvent ça stupide. Ils pensent qu'il vaut mieux s'occuper de ce qui se passe sur Terre que sur la Lune. Je pense aussi que ce n'est pas de l'Obamania, c'est du pragmatisme. L'obligation qu'a ordonné le président Obama pour les banques de dépôt de faire du business en investissant dans les subprimes qui ont planté la planète, et que la crise n'est pas finie, ce n'est pas de l'Obamania. Et c'est le premier qui propose cette interdiction, et donc il a pratiquement toutes les banques contre lui. Donc je trouve que c'est plutôt courageux, et c'est la solution pour éviter qu'à nouveau, les banques de dépôt que nous plaçons notre argent, notre simple salaire, continuent d'investir sur les marchés, de faire des magouilles, comme il y a eu de l'affaire Kerviel et d'autres affaires. Merci.
Défense d'Obama suite à l'émission d'hier sur les propos de Howard Zinn, l'historien Howard Zinn, qui est mort le 27 janvier dernier à l'âge de 87 ans et auquel nous rendons hommage aujourd'hui pour cette quatrième heure avec des entretiens qu'il nous avait donnés en avril dernier. C'est vrai que Howard Zinn, à la fois heureux qu'un homme noir ait été élu à la tête des États-Unis, lui qui s'est tant battu pour les droits et pour la suppression de la ségrégation aux États-Unis, était très critique à l'époque déjà des possibilités que pouvait avoir Obama, non pas l'homme, non pas sa bonne volonté sans doute, mais les possibilités que la Constitution et le système des États-Unis lui permettaient, comme dans le cadre des réformes promises. Merci pour tous ces messages, beaucoup de réactions sur la présence et sur cette journée consacrée à Elisabeth Badinter. Vous avez entendu une partie des messages que nous avons reçus, et puis merci aussi aux auditeurs qui nous ont signalé la soirée Arte du mardi 9 février avec la séquence intitulée « 8 journalistes en colère ». On l'a regardé tous ensemble et dans le bureau, et on a passé un très bon moment. Si vous ne l'avez pas vu, Trouvez-le sur le net, c'est un excellent divertissement pour le week-end. Ça dure 20 minutes, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais c'est formidable. Et bravo aux comédiens pour cette parodie. Ces imitations sont très réussies. Il s'agit d'imitations de 8 journalistes, donc Jean-Pierre Elkabbach, David Pujadas, François-Olivier Gisbert et d'autres que je vous laisse le plaisir de découvrir. Il faut garder quand même un peu de surprise. C'est encore mieux que les Guignols, mais c'est un autre genre. C'est plus proche de la famille Adams. Il y a un éclairage de catacombes qui fait ressortir les rides, les verrues, les bouchées dentées. C'est très, très bien fait. Ces vieux paillassons, imbus d'eux-mêmes, plein de fatuité, plein de vacuité. C'est crépusculaire, c'est pathétique, c'est touchant. C'est Cabotin qui rabâche des formules mille fois répétées, qui enfonce pompeusement des portes ouvertes sur une musique grave, genre news, avec des trucs très répétitifs comme ça. Alors, il n'y a que des hommes, la cinquantaine, et puis une seule femme, Arlette Chabot, excellente, la comédienne qui fait Arlette Chabot, qui est plus vraie que nature. Alors, ils ont tous ce ton péremptoire des petits chefs que personne n'ose contredire. Évidemment, heureusement que c'est de la comédie, parce que ce serait terrible si c'était vrai. Le mieux, c'est quand ils jouent aux anticonformistes. Et pour jouer les rebelles, les courtisans sont indépassables. Mais ce qui est parfait, la petite touche parfaite, c'est quand ils font mine de dénoncer leur propre turpitude. Ils reconnaissent une petite erreur, une petite bourde. C'est très, très bien imité. Bravo les artistes. Et nous, ça nous rend fiers d'être journalistes, même si évidemment on n'est pas à leur niveau, on n'a pas le talent de dire ce qu'ils disent avec cette force et avec cette colère. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça sur Internet très facilement. Sur le site de Arte. Voilà, nous on retrouve tout de suite Howard Zinn. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut, ici c'est les associations de voleurs de poules, les associations gitanes, ziganes, roms, gypsies, sinté, tout ça. Et ben, pour une fois, le dimanche 14 février, à partir de 18h, on ne vous parlera pas de nos malheurs. On ne dira pas qu'on est discriminé, chassé, battu, expulsé, qu'on essaye de se débarrasser de nous. Pas du tout. Ça, on fait une Saint-Valentin gitane. Alors, on va danser, on va faire de la musique, on va faire un tas de bazar. On va manger des gâteaux gitans. Et puis, on vous attend. On voudrait Daniel, on voudrait toute son équipe modeste et géniale et tous les auditeurs modestes et géniaux. Venez, 9 rue François Deberghe à Montreuil. C'est chez Armand Gatti. D'ailleurs, Armand Gatti sera là. Et Tony Gatliff, il sera là aussi. Métro Croix de Chavaux. C'est un grand hangar qui s'appelle La Parole Errante. C'est poétique, c'est politique, c'est musical, c'est beau. Venez avec nous, on vous embrassera, on vous aime.
Allô, Daniel Mermet, j'enrage. Alors qu'avec notre argent, on mobilise 1 à 1500 policiers chaque fois que Sarkozy sort, le gouvernement ne trouve pas l'argent pour l'embauche de 11 surveillants pour s'occuper de plus de 1000 gosses à Évry. C'était vraiment un scandale. Malheureusement, c'est emblématique du forfait majeur de ce gouvernement, qui est la destruction de l'école publique. Il est temps de se réveiller. Hein. Le métier d'enseignant va être le seul métier en France qui n'aura plus besoin d'apprentissage. On n'apprendra plus aux enseignants à faire l'école. Les classes sont de plus en plus chargées. Les matières sont réduites. Les cours de philo, d'économie, de français, d'histoire vont être peau de chagrin. Si bien que, résultat des courses, ben de plus en plus, les gosses de riches iront dans les écoles privées largement subventionnées par l'État. Et les enfants de pauvres continueront à être obligés, faute de réussir à l'école, ben, auront toujours recours aux situations et aux attitudes de désespoir. C'est vraiment scandaleux. Au revoir et merci.
D'après André Comte-Sponville, la laïcité, c'est le refus par l'État de se soumettre à quelque idéologie que ce soit, l'idéologie de l'athéisme ou du religieux. Ma conclusion, dans la rue, dans l'espace public, on ne doit reconnaître ni ceux qui croient, ni ceux qui ne croient pas. C'est Régis, de Nîmes.
Le repère de Toussaint Sud Seine-et-Marne vous invite ce vendredi 12 février à 20h à une rencontre débat sur le thème de la problématique du logement et de la précarité énergétique, avec des intervenants spécialisés, Liliane Pays, Guy Bonneau et Hélène Lipietz. Rendez-vous donc au dernier bistrot du village de Toussons, place de l'église, c'est près de Milly-la-Forêt, à 20h, de la part de Julien, Pierrot et la bande. Ciao à tous.
À tous les AMG du Sud Toulousain, bonjour. Une filiale de la multinationale Veolia veut implanter un site de regroupement de broyage, de préparation et de transfert de déchets dangereux, hydrocarbures, colle, solvant, peinture, huile, déchets issus d'installations nucléaires de base, sur un site judicieusement choisi. Appréciez vous-même, ce sera littéralement sur la nappe phréatique à 1,5 km de la Garonne et 4 km du lieu de pompage d'eau potable à quelques centaines de mètres de deux villages, Lafitte, Vigordane et Salles-sur-Garonne, dans le sud toulousain. En fait, c'est plutôt trouver une commune avec un maire et des conseillers municipaux à la recherche de rentrées fiscales, qu'ils n'auront pas, la taxe professionnelle étant supprimée, qui a motivé le lieu d'implantation. Ce projet ayant été déjà rejeté par plusieurs communes, vu que 16 autres entreprises présentent déjà en charge ces déchets en Midi-Pyrénées. Nous pensons que Veolia veut obtenir le monopole de l'industrie très lucrative des déchets. On manifestera notre résistance samedi prochain, le 13 février, à 10h30, devant la mairie de Lafitte-Vigordane, située près de Carbonne, à 40 km au sud de Toulouse. Alors à samedi, pour ceux qui peuvent venir, merci d'avance.
Asking me if I know of a book that offered a different view, a radical view, a critical view of American history. My name is Howard Zinn, and I wrote A People's History of the United States.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bassie qui suit avec Guy Ventil. Howard Zinn, des huîtres au Tabasco.
Let's not overdo it.
Flight number 2, arriving from New York.
Howard Zinn, vous avez écrit ce livre sur l'histoire populaire des États-Unis que vous faites commencer à la fin du XVe siècle avec l'arrivée de Colomb. Est-ce que vous pensez, puisque vous êtes un homme progressiste, est-ce que vous pensez que l'humanité à progresser? Est-ce que nous faisons des progrès? Est-ce que toutes les luttes que nous menons ou que des gens comme vous peuvent mener, est-ce que tout ça nous fait progresser ou bien est-ce que rien ne change?
Well, in the long run, I believe progress is being made. It's hard to believe. I can understand why people are pessimistic, but I believe that there is a growing consciousness under the surface of all these terrible things that are happening.
Je comprends qu'on puisse être pessimiste, mais je dois admettre que sur le long terme, malgré toutes les catastrophes, malgré tout ce qu'on voit de terrible, je crois qu'il faut continuer à penser que sur le long terme, il y a une espèce de progrès.
Changes in consciousness always take place below the surface, and it takes a long time for them to turn into action and bring about change.
Parce que les changements, justement, de conscience, de prise de conscience, ça se passe en profondeur et ça met du temps à monter jusqu'à la surface et à se transformer en acte, en changement visible.
Oh, that uniform.
Feel free to stop anytime now.
And he uses this menu pricing guide, so I know exactly what I owe.
Can I just say,
and he never walks through my yard or parks in my driveway.
Get the plumber you deserve. Visit us at MrRooter.com.
Le temps qu'il a fallu pour qu'on découvre et qu'on admette que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Combien de temps a-t-il fallu pour que cette idée éclate et qu'elle vienne au jour et qu'elle s'impose et qu'elle triomphe et qu'elle devienne une évidence? Eh ouais, le progrès, c'est très très long. Les lumières viennent très 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 lentement et viennent souvent beaucoup plus lentement que nos propres vies. Et souvent, elles arrivent, comme disait l'autre, sur des pattes de colombe. Simplement, il y a ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas. Voilà, en gros, c'est ainsi. Howard Zinn fait partie, vous avez compris, de ceux qui ont consacré complètement leur vie à la lutte, au progrès. Il a démontré dans les jours précédents, cette semaine passée avec lui jusqu'à aujourd'hui, et surtout, évidemment, à travers ses grands livres, le principal, une histoire populaire des États-Unis, immense succès aux États-Unis, c'est ça qui est important, je crois, c'est immense succès populaire de cette histoire des États-Unis, racontée par le bas, racontée par le peuple, racontée par ceux d'en bas, le plus souvent par les dominés, qui d'ailleurs fait l'objet d'une bande dessinée. Mais ça, c'est sur le site France Inter, à la rubrique Là-bas, si j'y suis, où vous avez toutes les références bibliographiques de Howard Zinn. Et puis, bien sûr, l'impossible neutralité qui dit tout de l'homme. Et il est impossible d'être neutre. You can't be neutral in a moving train, aimait-il à répéter. Alors, est-ce que cette histoire finit avec lui, qui est mort le 27 janvier dernier, à l'âge de 87 ans? Eh ben non. Eh ben non, parce que quelques heures après, Naomi Klein, que vous connaissez, cette essayiste et intellectuelle canadienne d'origine états-unienne, s'exprimait, oui, se manifestait en hommage à Howard Zinn, dont elle se sent l'une des filles. Et à Delhi, il n'y a pas si longtemps, où nous étions avec Give, dans la maison d'Arundhati Roy, qui est une femme également très engagée, grand écrivain, un immense portrait de Howard Zinn dans sa maison. Voilà, l'histoire continue, et elle continue jusqu'à 16h, dans Là-bas, si j'y suis, bien sûr, quand, en ce qui concerne le progrès, il n'y a que les combats qu'on ne livre pas, qu'on est sûr de perdre. Les autres, parfois, on les gagne. Et à la fin de cet entretien avec Arundhati Roy, je lui ai demandé, mais pourquoi vous faites tout ça? Et elle a dit, parce que on est quand même beaucoup mieux dans notre camp que dans celui d'en face. C'est jusqu'à 16h, c'est Là-bas si j'y suis, avec Howard Zinn, des huîtres au Tabasco. Pour l'essentiel, pour vous, la cause de toutes ces catastrophes, ces malheurs, ces guerres, ces injustices, ces souffrances sociales, ces dominations et de toutes sortes,
la cause essentielle pour vous, c'est le capitalisme. C'est bien ça.
Well, we can have wars without capitalism. Capitalism is not the only reason for war. I mean, the Soviet Union, not a capitalist nation, but still the Soviet Union made war on Afghanistan, invaded Afghanistan.
Bah, c'est-à-dire que le capitalisme n'est pas la seule raison de partir en guerre, c'en est une, mais par exemple, l'Union soviétique, qui n'était pas un pays capitaliste, a fait la guerre, par exemple, à l'Afghanistan.
So, this capitalism is not the only reason, but capitalism, I believe, creates a very powerful motive for war, because capitalism is driven by the motive of profit, and war is profitable.
Simplement, le capitalisme est un des moteurs de la guerre dans la mesure où le capitalisme ne cherche qu'une seule chose, c'est le profit. Et la guerre est profitable.
You know, somebody did a recent study of all American wars, interventions since the 19th century. About 12 different interventions, you see. Starting with Cuba, Hawaii, the Philippines, you know, all the way up to the present.
Par exemple, il y a une recherche qui a été publiée il y a quelques années de ça sur les conflits extérieurs des États-Unis, depuis la guerre de Cuba au 19e siècle, en passant par Hawaï, les Philippines et ainsi de suite.
And he finds one common cause for all of these interventions, economics, profit.
Et dans la totalité des cas, ce qui ressort, c'est que les motivations pour ces guerres sont avant tout des motivations de profit économique.
Alors, on oublie aussi l'environnement. On oublie les destructions produites par la recherche du profit contre l'environnement. Ça, c'est quelque chose aussi d'important.
Oh, exactly. I think that is the most damaging evidence against capitalism and the profit motive. If profit is your main motive, you don't care. You will tear down the trees, you will pollute the oceans, you will pollute the air. All you care about is profit.
Partout où la course au profit et l'appât du gain est le moteur essentiel, c'est la nature qui en subit les conséquences les plus directes, et on en voit des exemples un peu partout, à tel point que c'est vraiment la trace la plus marquante des dégâts du capitalisme sur l'environnement.
And that's why we have disasters, you know, like the one in Bhopal in India.
Il y a qu'à voir des exemples, par exemple, comme Bhopal en Inde.
There's no question about it. There's a very direct connection between capitalism and the deterioration of the environment.
Il y a un lien très direct entre le capitalisme et la détérioration de l'environnement.
We are the women of Bhopal, and this is the story of our struggle. We will fight for justice till the day we die.
Union carbide, you cannot hide behind your deadly clouds of cyanide. You gassed our city with your poison factory. Cutting costs on safety, making them, I say, using double standards on trans technology. And you said it would be good for our economy. You ruined our lives, killed our sons and our mothers. And before we could moan our dead sisters and brothers, you already denied our responsibility for the worst disaster in history. 19 years later, we're still suffering and dying, and you're still claiming trade secrets and you're still lying. 20,000 dead and counting is more than a statistic. We remember every smile, our heartbreaks realistic. More than 100,000 still living here in vain. How can you sit there, tell us all our cries are in vain? Toxic waste dumps around your factory are adding so much insult to our injury. The poison water that we have to drink, yo. Ask any daughter, she know how much it stinks. You thought the merger with the Dow Company would absolve you of any liability. But for your crimes against humanity, we're gonna bring Dow Chemical to its knees.
Si on considère que l'URSS n'a pas été le communisme, l'URSS a été un capitalisme d'État autoritaire. Si on considère que la Chine est le terrain de jeu des multinationales, des grandes entreprises internationales, y compris des entreprises chinoises, on peut se dire finalement que le communisme dont vous avez rêvé dans votre jeunesse, avec toute la nuance anarchiste que vous y avez mis tout au cours de votre vie, de vos réflexions, n'a jamais existé nulle part, tout simplement.
That's absolutely true. No, communism has never existed. And enormous difference between the Paris Commune, which you could say is a form of communism, is totally different than the Soviet Union.
C'est tout à fait exact. Il n'y a jamais eu de communisme effectivement appliqué dans le monde. La chose qui peut-être serait le plus proche de ça, c'est la Commune de Paris de 1871, qui était peut-être plus communiste que n'a jamais été l'Union soviétique.
And when the Soviet Union collapsed in 1989, people said, you see, communism has failed, socialism has failed, Marxism has failed. Totally wrong. None of those things existed in the Soviet Union.
Quand l'Union soviétique s'est effondrée en 1989, les gens ont tout de suite dit, regardez, le marxisme a échoué, regardez, le socialisme a échoué, regardez, le communisme a échoué, ce qui est absolument faux, puisqu'aucune de ces idées n'était appliquée en Union soviétique.
Oui, mais on vit quand même avec cette certitude-là. Vous vous dites c'est faux, mais ce qui s'est imposé dans les évidences, dans l'idéologie dominante, c'est ça, c'est que c'est Tina, there is no alternative. C'est ce que le néolibéralisme nous a dit, il n'y a pas d'alternative. Et ce que vous décrivez sur la chute de l'Union soviétique en 89 est venu corroborer ça, il n'y a pas d'alternative. Est-ce que vous croyez que c'est en train de changer ça?
Well, I think we see two things today. One, that the Soviet system, the bureaucratic dictatorship of the Soviet Union, that obviously doesn't work.
On voit deux choses, en fait. D'abord, on voit une chose, c'est que l'espèce de dictature bureaucratique de l'Union soviétique qui n'avait rien avec le vrai socialisme, ça ne marche pas.
And now we are seeing that capitalism doesn't work. We're seeing it in the Soviet Union, and we're seeing it now in the most successful capitalist country in the world, the United States.
Et maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que le capitalisme lui-même ne marche pas. On le voit dans l'ancienne l'ex-Union soviétique, dans l'ancien monde communiste, mais aussi on le voit dans l'exemple le plus parfait, le plus abouti du capitalisme au monde, ici, aux États-Unis.
So I believe we might be ready for something new in the world. Something which avoids the despotism of the Soviet Union and which avoids the cruelty of capitalism.
Et je pense qu'on est prêt aujourd'hui pour quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous épargne le despotisme de l'Union soviétique et qui nous épargne la cruauté du système capitaliste tel qu'il existe ici.
Howard, comment expliquer cette vitalité, cette force du capitalisme? Il y a des grandes choses sur lesquelles nous avons fait des progrès. Nous avons aboli l'esclavage, nous avons créé la démocratie, le sujet politique, la libération des femmes. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, les conditions de travail, etc. Mais comment expliquer cette puissance du capitalisme et notre incapacité à changer? Parce qu'après tout, le capitalisme, c'est des idées. C'est quelque chose qui n'existe que par des idées. Comment expliquer sa force et sa capacité à persister?
Well, I mean, the United States is a good example of it. How does the capitalism in the United States survive? It survives by making just enough change to satisfy enough of the people so that there's no revolt, so that there's no revolution, you see. But it covers up the fact that one out of every five children in the richest country in the world, one out of every five children are born into poverty, or 2 million people are in prison in the United States.
Je pense qu'il faut prendre l'exemple des États-Unis, l'exemple le plus abouti du capitalisme aux États-Unis, c'est-à-dire que le capitalisme arrive à faire des changements de surface juste assez pour satisfaire juste ce qu'il faut de la population, sans changer fondamentalement le régime des choses. C'est ça qui explique, par exemple, qu'aujourd'hui, le pays le plus riche au monde voit 1/5 de ses enfants naître dans la pauvreté, que le pays le plus riche du monde a plus de 2 millions de personnes derrière les barreaux.
En France, actuellement, on est en train de détruire 3 000 emplois chaque jour. Aux États-Unis, vous perdez des dizaines de milliers d'emplois. On est étonné, finalement, de si peu de révoltes. Dans votre livre, vous évoquez les révoltes des années 30. Comment expliquer si peu de révoltes aujourd'hui?
I think that as bad as the situation is now, it has not yet reached the level of desperation that existed in the 1930s. 1932, 33, 34, 1/3 of the population was unemployed. Today, maybe 10% of the population is unemployed.
La crise a beau être terrible aujourd'hui, elle n'a pas l'ampleur qu'elle avait dans les années 30. Dans les années 1930 à 34, ce n'était pas 10% comme aujourd'hui de la population qui était au chômage, mais c'était 30%.
So we have not yet reached that level where people are on breadlines or people are desperate for food. And so if we do reach that point, then we are going to see the kind of agitation that we saw in the 30s.
Et aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment ces queues pour avoir du pain. On n'a pas ce désespoir pour réussir à se nourrir. Mais simplement, si on en arrive là, si la crise continue à s'aggraver, là, il n'y a pas de doute qu'on verra à nouveau des explosions de colère et de révolte.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down.
Encore quelques instants avec Howard Zinn dans son bureau de Boston University où il nous reçoit avec autour de lui des affiches, des photos, tout un bazar dans son bureau, affiches et photos qui retracent des moments de sa vie, de sa carrière, des pièces qu'il a écrites, plusieurs pièces qu'il a écrites, Marx à Soho par exemple, comme le retour de Karl Marx à plusieurs années, et puis des mots, des photos d'enfants, tout un univers et toute la parole d'un homme.
Howard, vous faites partie des dissidents américains, un des plus célèbres. Je suis sûr qu'à chaque fois que vous parlez, que vous faites des débats publics, il se trouve quelqu'un pour dire « Ah oui, mais vous êtes l'alibi du système ». Le système vous laisse parler, le système a besoin de gens comme vous parce que vous êtes des alibis et, par votre expression, par votre existence même, par votre travail, vous montrez la puissance du système. Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit ça, quand on vous dit « vous êtes un alibi » C'est-à-dire, au fond, une sorte de complice du système.
Well, it's true. It's true that the system uses me. This is how the system has maintained itself in the United States. Totalitarian systems don't last that long.
C'est vrai que le système m'utilise, et c'est comme ça aussi, c'est pour ça aussi que ce système dure et perdure aux États-Unis, parce que le totalitarisme ne dure pas aussi longtemps.
This is a very ingenious system we have. We allow just enough freedom. You know, the idea of freedom, but not too much. When it goes too far, then we clamp down.
C'est un système très ingénieux parce qu'il donne de la liberté, mais juste ce qu'il faut de liberté, pas un pas au-delà. Et quand il y en a trop de liberté, alors le système tape sur la table.
But you might say it's a race between the system and its critics, and it's a gamble on our part. The system is gambling that whatever we say, whatever we write, is not going to be powerful enough to overthrow the system.
On pourrait dire que c'est une course, une espèce de course entre le système et ses critiques. Et le système mise, en fait, le système joue la carte que tout ce que nous pourrons écrire, publier ou dire ne sera pas assez puissant pour renverser ce système.
And we, the opposition, are gambling that we may lose and lose and lose, like somebody playing a game, roulette. We lose and lose and lose, but we have to keep playing. Because if we don't keep playing, we will never win.
Et nous, les critiques du système, on est là, à cette même table de jeu, en train de jouer, et se dire, on perd, mais même si on perd, il faut continuer à jouer, parce que si on ne continue pas à jouer, là, on sera fini.
Là, vous vous approchez de ce que dit Ralph Nader. Ralph Nader dit, le capitalisme n'échouera jamais, parce qu'à chaque fois qu'il est près d'échouer, le socialisme vient à son secours.
Well, so far, that has been true.
C'est vrai jusqu'à maintenant.
That was the situation in the 1930s. Just enough socialism, not socialism, but a little bit of socialism. Just enough to satisfy people, calm things down.
C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé dans les années 30, mais ce n'est pas le socialisme en tant que tel, mais c'est une petite portion de socialisme pour calmer et apaiser les gens.
But the question is, how long can they continue to do this? Will a point be reached where a small change, a little bit of socialism, will not be enough? And then something bigger will have to happen.
Mais la question après, c'est de voir combien de temps ça peut durer comme ça. Est-ce qu'un jour, ça, on ne dira pas, c'est pas assez, il en faut davantage.
Comment aller vers la société dont vous rêvez? Donnez-nous la marche à suivre, on vous suit.
Yes, of course.
Oui, bien sûr.
It's good to have two followers. Yes.
C'est bien d'avoir au moins deux personnes qui te suivent.
Yes, three, maybe three. And, but the way to change is not going to be by, you know, the violent revolution, because I believe that violence is poisonous to everybody who engages in it.
En tout cas, la voie pour le changement ne passera pas par une révolution violente, parce que je pense que la violence amène un poison sur les sociétés et sur les humains.
And we've seen that violent revolutions, even, you know, when they are successful, and even when they have overthrown terrible regimes, Soviet Union, China, Algeria, third world countries, that the violence does not bring about a humane society. It has within it inherent natural corruption.
Et quand on voit qu'il y a eu des révolutions qui ont réussi pour renverser des régimes terribles, comme ça a été le cas en Russie ou en Chine, ou même dans les pays du tiers-monde qui ont accédé aux indépendances comme l'Algérie, on voit que souvent ces révolutions portaient en elles cette violence et que cette violence avait un effet délétère sur les sociétés et sur les humains qui les
vivent. The way I see change coming is by a kind of decentralized revolution where people take control little by little of their institutions.
Mais je pense que la voie pour un changement, ça passerait par une espèce de révolution décentralisée où ce sont des communautés, des groupes d'individus qui reprennent possession des institutions.
Where you have pockets of liberation in the society that grow and grow, and the powers that are centralized in Washington or wherever, they are not capable of dealing with a kind of guerrilla revolution.
À tel point que les autorités centrales, qu'elles soient à Washington ou ailleurs, n'arrivent pas à endiguer cette prise de pouvoir par les gens, mais par les marges, en décentrant le pouvoir.
This will take much longer. Revolutionaries are usually very impatient.
Ça prendra beaucoup plus de temps aussi, mais alors que les révolutionnaires sont généralement très impatients.
We are going to need many revolutions. Marx had a very simple idea. You'd have capitalism, then socialism and communism, but obviously he could not predict all of the twists and turns that capitalism would take. And I think that we are going to have to go through many different phases of struggle and before we manage to get a decent society.
Oui, je crois qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire, beaucoup de révolutions à faire. Et Marx, il avait analysé le capitalisme, décrit le socialisme et l'avenir qui était le communisme pour lui. Il n'avait pas vu tous les méandres que pouvait prendre le capitalisme. Et je pense qu'on a encore pas mal d'étapes et pas mal de luttes et pas mal de combats avant d'y arriver.
Ay, Nicaragua, Nicaragua. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más.
¡Viva Nicaragua libre!
Cantando todo.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita,
es el pueblo de Nicaragua,
la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, yo te quiero mucho más, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
No es el imperialismo.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de
Howard Zinn, qui est extraordinaire, encore une fois, on s'est vu, Howard, il y a 6 ans, vous parliez comme ça il y a 6 ans, bien sûr, et c'était comme un document ancien, presque une merveilleuse pièce de musée, vous étiez un témoin. Aujourd'hui, ce que vous dites là intéresse à nouveau. On ne vous prête pas la même oreille aujourd'hui quand vous dites ça qu'il y a 6 ans. Parce que ces thèmes-là intéressent à nouveau face à cette crise. L'éloignement aussi de la chute du mur, ça fait 20 ans. Hein, la réflexion, le temps qui passe, il y a à nouveau indéniablement un intérêt pour tout le travail de votre vie.
Well, yes. I don't like to say that, you know, I'm so wise that I, you know everything that's going on.
Oui, enfin, je vais pas non plus, j'aime pas dire non plus que je suis tellement sage que j'avais tout prévu et tout veut venir.
But I'm very encouraged, but I go around the country and I speak to large audiences, 500, 1,000, 1,500, all over the country, and I see young people who are hungry for ideas and they want to believe that the world can change.
Mais n'empêche que quand je fais des conférences un peu partout dans les États-Unis, devant des publics de 500 à 1500 personnes, je vois cette soif et je vois des jeunes qui arrivent et qui ont besoin de se faire dire que le monde peut changer.
There's a nice core of millions of people in the United States who want fundamental change. And so I have a kind of faith that if these people move from thinking to acting, that's a very crucial step, from thinking to acting. Yeah. They move from thinking to acting, you know, that we will see change in the United States. Not one great revolution, but we will win universal health care. Simple thing. Maybe we will win the government agreeing to employ everybody who is not employed by the market, by the capitalist system. In other words, I think we can move to socialism step by step.
Oui, et d'ailleurs, il y a quoi ? Il y a plus d'un million de personnes qui ont acheté mon livre Une histoire populaire. Il y a plus de 2 millions de personnes qui ont acheté mon histoire populaire des États-Unis. J'en déduis donc qu'il y a quelques millions d'autres qui sont intéressés par les mêmes questions. Et je crois donc qu'il y a vraiment cette soif et cet appel pour un changement nouveau. Et je pense que c'est par ces luttes qu'on va mener. Et je pense que l'étape essentielle, c'est de passer à la réflexion, à l'action. Il y a ce passage crucial du dire au faire. Et c'est par cela qu'on arrivera à des victoires. Je pense, par exemple, qu'on arrivera un jour à la sécurité sociale aux États-Unis, qu'on arrivera un jour à ce que l'État garantisse un emploi à tous ceux que le système capitaliste ne veut pas employer. Et c'est étape par étape qu'on arrivera à une société plus socialiste aux États-Unis.
Toute votre vie, votre œuvre, votre travail de militant, d'écrivain, d'historien, d'homme de théâtre aussi, on oublie l'homme de théâtre et tout ça, c'est de pousser la conviction qu'il est possible de pousser les gens, vos contemporains, à devenir les acteurs du changement. C'est-à-dire que les changements sont à notre portée. Et c'est ça que vous voulez dire. Vous y aurez passé une vie entière.
Exactly. When I write about history, it's to encourage people to become part of history.
C'est exactement ça. Quand j'écris sur l'histoire, c'est pour encourager mes contemporains à devenir acteurs de l'histoire.
A part of history.
Not to learn history, but to make history.
Pas apprendre l'histoire, mais faire l'histoire.
Or, ces 30 dernières années que nous venons de vivre, la révolution conservatrice nous a persuadés que nous étions impuissants. Le génie particulier de cette époque aura été de nous persuader que nous sommes impuissants, qu'on n'y peut rien, qu'on ne peut rien changer, etc. Et tout votre travail aura été à contre-courant. Merci pour ça, au moins.
Thank you for listening to me. That's what I depend on. I hope the people listen to me. So here I have 3 people listening to me. And maybe more people in France will listen to me.
Eh bien, merci de m'écouter, parce que moi, tout ce que je fais, c'est pour mon écoute. Et là, voilà devant moi 3 personnes, et peut-être plus en France, qui écoutent, qui m'écoutent.
But we face the same problems, after all. Do you know what I remember? I remember that in the days of the Paris Commune, the people in Paris used the latest technology, which was balloons. And they sent balloons out over the countryside in France. And the balloons dropped leaflets, which had a very simple message. Our interests are the same. And I believe that's true worldwide.
Et c'est vrai que c'est partout pareil dans le monde. Et quand je repense par exemple à la commune de Paris, les communards ont utilisé les dernières technologies de l'époque, comme par exemple les ballons qui venaient juste d'être inventés, pour pouvoir distribuer des tracts dans la campagne française disant « Nous nous battons pour la même chose, nos intérêts sont communs ». Et je pense que c'est comme ça dans le monde entier.
Thank you very much.
Thank you very much.
As we go marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we mother them again. Our lives shall not be sweated from birth until life closes. Hearts give us bread, but give us roses.
Pride and Roses, du pain et des roses. C'était le chant des ouvriers et des ouvrières des textiles de Lawrence à côté de Boston. Merci à tous et merci surtout à Howard Zinn pour ses entretiens qu'il nous avait accordés en avril dernier. Traduction Guy Vanctil, montage Catherine Pinto. Merci aussi à Ambre Ivol. La bibliographie de Howard Zinn, vous la trouverez sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et cette série d'entretiens avec Howard Zinn. Vous pouvez la écouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Eric Mainviel et Dimitri Gronov. C'est Koyen Guyenne et Raphaël Moutard qui ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebotte et Catherine. Attends vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Attention, voici un message qui coupe le souffle. Vendredi, Euromillions met en jeu la somme de près de 129 millions d'euros. 129 millions! Bon, maintenant, on respire un grand coup et on va jouer!
Estimation non garantie des gains à partager au rang 1. Le montant du rang 1 est plafonné à 185 millions d'euros, voire règlement.
Euromillions! Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
FTJ, France Inter, partenaire des Trois Baudets. Le Club Chanson de Pigalle fête ses 1 an. Tout le mois de février et particulièrement les 14 et 20 février. Avec Humbert Humbert, Mel, Léninos et Baz Baz. À retrouver dans le programme de France Inter et sur franceinter.com.
16h sur Inter, on se retrouve lundi à 15h pour Là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous, je vous laisse pour les infos avec Angélique Boin. Salut.
Du nouveau dans l'enquête sur le vol de l'inscription qui surplombe l'entrée du camp d'Auschwitz en Pologne. La police suédoise a arrêté le principal suspect à Stockholm, celui qui aurait commandité le vol auprès des Polonais déjà arrêtés. Il s'agit de l'ex-leader néo-nazi suédois Anders Ekström. La justice suédoise va maintenant devoir décider de l'extrader ou non vers la Pologne où il est mis en examen dans cette affaire. Rappelons que l'inscription a été retrouvée. Le syndicat national des journalistes CGT se félicite de la décision du Conseil d'État qui sanctionne l'attitude de France Télévisions et du ministère de la Culture lors de la suppression de la publicité après 20h sur les chaînes publiques. Cette mesure avait été mise en œuvre avant que la loi ne soit votée, ce qui est illégal. La direction de France Télévisions n'a pas respecté les principes républicains, dénonce Jean-François Théaldi au nom des journalistes CGT. Un rebondissement dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Une association anticorruption baptisée Anticor a porté plainte contre X pour délit de favoritisme. Elle s'appuie sur le fait que l'Élysée a passé une convention sans appel d'offres avec le cabinet de Patrick Buisson pour la fourniture de sondages. Information qui apparaît dans le rapport de juillet 2009 de la Cour des comptes. Le président d'honneur de cette association Anticor est le juge Éric Alphen. C'est un signe de la précarisation des Français. Le Crédit municipal de Paris, plus connu sous le nom de Mont-de-Piété, a connu une activité record en 2009 en matière de prêts sur gage. 55 400 objets ont été mis au clou. Dans 90% des cas, il s'agit de bijoux que les prêteurs arrivent à récupérer la plupart du temps. L'actualité étrangère, c'est toujours la situation en Grèce. Les membres de l'Union européenne vont donc voler au secours de ce pays au bord de la faillite financière. Un accord a été trouvé à Bruxelles. Le détail en sera rendu public à l'issue du Conseil européen qui se tient en ce moment. Une opération de secours périlleuse a eu lieu la nuit dernière dans le Mont-Blanc. Les gendarmes du peloton de haute montagne de Chamonix ont réussi à récupérer indemne un skieur tchèque, deux Écossais et une Australienne, tous coincés sur une barre rocheuse. Opération délicate car les 10 gendarmes ont dû emprunter une galerie souterraine de captage EDF pour pouvoir les atteindre. Tout ce qui est hors piste dans un secteur dangereux et sans matériel. La vigilance orange à la neige et au verglas est étendue à 6 nouveaux départements, 20 donc en tout, par Météo France. Les 6 nouveaux sont l'Ariège, la Haute-Garonne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Tarn sont désormais concernés. Et la situation sur les routes est donc compliquée par la neige et le verglas. Soyez prudents.
La nuit,
le vendredi soir, comme à partir de 23h, Sylvie Larocca se transforme en Alexandra Coe. Cette dernière connaît très bien Tarzan, Sherlock Holmes, James Dean et Snoopy.
Entre autres.
Plongez-vous dans un monde où tous vos rêves seront permis.
La nuit
comme si, tous les vendredis soirs à partir de 23h.
Et ça, ce n'est pas de la fiction.
France Inter et la MC 93 à Bobigny présentent le festival Le Standard Idéal jusqu'au 19 février. L'Argentin Daniel Véronèse revisite Maison de Poupée et Hedda Gabler d'Ibsen. Les Catalans adaptent 2666, le roman de Roberto Bolano. Et en clôture, la mise en scène allemande de La Toison d'Or. À retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence.
Il est 16h04 sur Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. En musique, comme partout ailleurs, il y a les arbres qui cachent la forêt, parce que, bien sûr, on connaît Bach, Schubert, Mozart, Debussy, Ravel, etc., etc., puis d'autres moins connus qui, pourtant, ont apporté leur pierre à l'édifice, comme par exemple Johann Melchior Molter, né en 1696, c'est-à-dire 11 ans après Jean-Sébastien Bach, presque au même endroit, en Thuringe, près d'Eisenach, et puis il a fréquenté le même lycée que Jean-Sébastien Bach, mais 20 ans après, et il a appris tout ce qu'il faut, le contrepoint, et il s'est baladé un peu plus que le grand Jean-Sébastien, puisqu'il a évolué dans un triangle qui reliait sa région de naissance, la région de Thuringe, et Karlsruhe, et puis l'Italie. Et il a même transformé un petit peu la musique italienne, que Jean-Sébastien Bach avait bien écoutée, et qu'il a respectée et transcrite. Mais Molter a transformé quelquefois cette musique dans un style qui lui était très personnel, donc intéressant, pas très connu. Voici l'allegro d'une ouverture en ut majeur de Johann Melchior Molter. Allegro d'une ouverture en ut majeur de Johann Melchior Molter, interprété par l'orchestre baroque du Main et de Francfort, dirigé par Martin Jopp. Christian Zinding, c'est l'autre Norvégien à côté de Grieg. D'ailleurs, il a eu un petit peu le même parcours. Il est allé étudier au conservatoire de Leipzig, en Allemagne. Il s'est perfectionné à Berlin, à Munich, à Dresde. Et puis, il a été reconnu comme un des plus grands compositeurs norvégiens. Et dès 1890, le chanceux, l'État lui a assigné une pension annuelle. Et oui, ça se faisait autrefois. On sait qu'en Finlande, Sibelius a eu le même avantage. Ben voilà, il a écrit pas mal pour le violon, instrument qu'il connaissait très très bien. Et puis qu'il a vraiment bien servi. Et il a donné par exemple 3 concertos pour cet instrument, en dehors des 4 symphonies et des 2 opéras qu'il a écrits. Voici, tiré de la suite dans le style ancien de Christian Zinding, un presto. «